David Rigoleros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, à l'Institut français d'analyse stratégique, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le conflit en Ukraine a relancé les discussions entre la Russie et l'Iran, tous deux soucieux de rompre leur isolement. L'ouverture d'une liaison ferroviaire d'ici 3 ans, selon l'Iran, démontre une volonté de trouver des voies de transport nouvelles. Alors David Rigoleros, avec cette ligne ferroviaire, on passe une étape supérieure dans la relation entre les deux pays?
Oui, alors il faut rappeler que c'est un projet qui date d'une vingtaine d'années, hein, donc c'est pas tout à fait nouveau. Simplement, il est réactivé effectivement dans le contexte d'un rapprochement de plus en plus étroit entre Moscou et l'Iran, et Téhéran, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Donc il s'agit aujourd'hui d'actualiser en fait un vaste projet de communication, d'infrastructure de communication qui s'appelle le North-South International Transport Corridor, c'est-à-dire un corridor en fait nord-sud qui partirait de Saint-Pétersbourg pour aller jusqu'à Bombay en Inde et qui permettrait d'acheminer notamment des biens russes en passant par l'Iran justement. Et d'éviter un certain nombre de voies de commerciales qui sont jugées peu optimales pour Moscou et Téhéran.
Avec ce projet qui revient au goût du jour, cela montre que l'Iran et la Russie s'affranchissent de plus en plus des puissances occidentales.
Oui, incontestablement. Alors, ça ressemble d'ailleurs un petit peu à une, on va dire, une route de la soie à la russe, même si c'est pas tout à fait l'équivalent, puisque il y a effectivement l'idée de développer des tronçons ferroviaires, hein, le corridor faisant 7200 km. Il s'agit pour Moscou, d'éviter la voie communication maritime de la Baltique, qui est otanisée depuis que la Finlande est rentrée dans l'OTAN, d'éviter de passer par les détroits qui sont contrôlés par la Turquie, et d'éviter le canal de Suez, donc en transitant effectivement par le Caucase, pour écouler à partir des ports de Bandar Abbas et de Chabahar, en Iran, vers l'extérieur, c'est-à-dire à la fois vers la péninsule arabique, l'Afrique orientale et l'Asie. Donc c'est un projet. Le problème, c'est que ça passe par un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan et qui n'est pas connu pour être très favorable à l'Iran.
Ces relations extrêmement fortes et qui s'endurcissent depuis le début de la guerre en Ukraine sont-elles le signe que ces deux pays n'ont plus le choix car mis au ban des autres puissances internationales ?
Oui, il y a un rapprochement des pays sous sanctions, des pays parias, effectivement. De ce point de vue-là, c'est la confirmation d'un axe, on va dire, anti-occidental qui se concrétise, même si il faut relativiser la viabilité de ce projet pour les raisons que j'évoquais. D'abord parce qu'il y a des intérêts parfois qui sont pas toujours convergents entre l'Iran et la Russie, même si il y a une alliance de facto. Et puis par ailleurs, j'indiquais que sur la voie du corridor, il y avait des pays qui n'étaient pas forcément disposés à être très favorables à ce type de justement d'infrastructure. Donc c'est pour l'instant, il y a eu un effet d'annonce effectivement qui confirme le rapprochement étroit entre les deux pays, mais entre l'effet d'annonce et la réalisation opérationnelle du projet en question, il y a quand même une marge pour l'instant.
Alors Moscou a également annoncé la livraison de matériel militaire à Téhéran. Pour Israël, c'est une très mauvaise nouvelle.
Oui, mais c'est pas une surprise, hein. Là aussi, on sait depuis plusieurs mois qu'il y a un rapprochement de plus en plus étroit entre les deux complexes militaro-industriels, notamment avec la livraison de drones, puisqu'on le justement les Américains viennent de rappeler dans une conférence de presse par la voix du porte-parole du Conseil de sécurité que les Iraniens avaient livré plusieurs centaines de drones et qu'ils envisageaient d'en livrer dans des versions plus élaborées. Et de leur côté, les Russes, effectivement, pallient les déficits de certains outils militaires iraniens, notamment avec la vente d'avions, de Sukhoi. Donc, c'est en tout cas la confirmation, effectivement, de l'étroitesse des relations entre les deux pays, du fait de l'adversité rencontrée par ailleurs.
Alors, justement, Israël ne se retrouve pas au milieu d'un dilemme. D'un côté, soutenir ses alliés occidentaux dans la guerre en Ukraine en condamnant la Russie et donc ne pas pouvoir négocier avec Vladimir Poutine au sujet de ce matériel militaire.
Oui, mais l'enjeu sur le matériel militaire, c'est pas tellement le fond du problème. Les relations que souhaite maintenir Israël avec Moscou, c'est essentiellement par rapport à la Syrie et la possibilité de continuer à frapper les bases pro-iraniennes en Syrie, comme ça a été le cas de ces dernières années, avec on va dire un accord tacite de Moscou qui fermait les yeux. Et qui pourrait être mis en cause si effectivement il y avait un engagement trop marqué d'Israël aux côtés des Occidentaux et donc en inclinant vers Kiev. Donc c'est un dilemme effectivement stratégique. Concernant les livraisons d'armes, Israël a toujours considéré que de toute façon c'était des cibles et on l'a vu ces dernières semaines, certains sites qui n'étaient pas directement liés au nucléaire iranien, qui ont fait l'objet on va dire, de frappes dont la responsabilité est demeurée non officielle, notamment des sites de production de drones à destination justement de la Russie pour l'Ukraine. Donc, de toute façon, il y a effectivement une position qui n'est pas confortable pour Israël en la matière, même si de plus en plus, il y a une inclination qui quand même penche plutôt du côté de Kiev, mais de manière discrète justement pour ne pas obérer hypothéquer cette relation indispensable avec Moscou.
La coopération militaire est-elle le socle des relations entre l'Iran et la Russie?
Pas uniquement la coopération militaire, on va dire que c'est plutôt un développement collatéral, on va dire. C'est plutôt d'abord à la base une relation entre pays effectivement sous sanctions, mis à l'index au niveau international. Et donc il y a des relations commerciales de toute façon de longue date entre les deux pays. Et il se trouve que vu le contexte particulier qui a été initié par la guerre en Ukraine, ça a favorisé, on va dire, le renforcement des relations en matière par rapport au complexe militaire industriel. Donc ça, c'est incontestable. On va dire que c'est un approfondissement de relations à multiples facettes.
Cette alliance entre la Russie et l'Iran qui est très grande, a-t-elle un avenir tant les deux pays sont devenus des parias?
Ça va dépendre très largement de l'évolution de la situation internationale et d'abord de ce qui va se passer en Ukraine, puisqu'on parle d'une contre-offensive qui est programmée, et donc ça va déterminer un certain nombre d'évolutions importantes pour tous les acteurs de cette situation, au premier rang desquels la Russie et indirectement l'Iran. L'Iran qui par ailleurs au Moyen-Orient a développé une diplomatie proactive tous azimuts puisque l'Iran a renoué avec l'Arabie Saoudite le 10 mars dernier et puis avec d'autres pays, avec l'Égypte. Donc il y a une forme de normalisation, c'est-à-dire que l'Iran veut sortir de son isolement au niveau régional tout en maintenant l'étroitesse des liens avec la Russie qui a été un partenaire pendant près d'une décennie, notamment sur le théâtre syrien.
Justement, vous parliez de renouer ces liens au niveau régional. Ça fonctionne?
Pour l'instant, ça fonctionne relativement, puisque par intérêt bien compris, toutes les parties prenantes ont avalisé ce processus de normalisation. Et on le voit d'ailleurs avec le retour de Bachar al-Assad, puisque Bachar al-Assad a été formellement invité le 19 mai prochain à Riyad, justement, pour officialiser, on va dire, la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Donc, c'est dire qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en train de se passer, ce qui conforte d'une certaine manière l'Iran, qui était très déstabilisé ces derniers mois sur le plan interne et qui était très isolé sur le plan extérieur. Donc, il y a des jeux à double détente, hein, de part et d'autre. Et donc, c'est extrêmement complexe de cerner les attendus de ces évolutions.
David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS à l'Institut français d'analyse stratégique ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio
Merci.
Judaïka.